Ils sont des dizaines de milliers sur des dizaines de kilomètres, un peuple en marche qui fuit son pays, poussé autant par l'avancée du FPR que par la propagande de l'ex-gouvernement rwandais qui leur a demandé de quitter leur village.
Ce génocide a fait environ 1 million de victimes en moins de 3 mois.
Juliette Bourg.
Et quand le FPR arrête le génocide début juillet 1994, le gouvernement, mais aussi la majorité de la population Hutu, prend la fuite notamment vers le Congo.
Après les civils estimés aujourd'hui à plus de 500 000, ce sont maintenant les militaires de l'armée rwandaise qui cherchent à trouver refuge au Zaïre. Une armée en déroute avec ses éclopés, ces hommes valides et ces officiers sans ordre et sans armes.
La plupart des génocidaires de Butaré ont fui plutôt vers le Congo.
Alain Gauthier, traqueur de génocidaires Hutu.
Dès qu'ils ont pris conscience que le FPR allait gagner la guerre. On peut dire que la plupart de ces grands responsables sont partis entre le 20 et le 30 juin en direction du Congo, du Zaïre à l'époque, mais il faut savoir qu'ils ont profité pour pouvoir fuir de la présence des soldats français que la France avait envoyés dans ce qu'on a appelé l'opération turquoise. Il faut savoir qu'à partir de la fin juin, autour du 20 juin, la France envoie 2500 soldats. Alors ils se basent au Zaïre, à Goma et Bukavu, et ils entrent au Rwanda et ils créent ce qu'on appelle une zone humanitaire sûre et ils occupent tout l'ouest du Rwanda. Et bien évidemment, c'est à ce moment-là que vont fuir au Zaïre une foule. On a évalué cette foule à 2 millions de personnes, 2 millions de paysans, de tueurs.
Pauline Yaramasuko, génocide rwandais au féminin. Deuxième épisode. Le viol, une arme de destruction massive. Alain Lefkovitch, Marie-Laure Ciboulet.
Surtout ne vous arrêtez pas, continuez à marcher. Le FPR veut vous prendre en tenaille.
Antenne 2, journal de 20h, juillet 1994.
Depuis qu'on a pris la ville de Kigali, les gens marchent à pied. Les enfants, les vieux, les vieillards, tout le monde est venu. Vous verrez le bétail, vous verrez tout le monde. On est fatigué de marcher.
À l'époque, on entend le bitume des routes qui tremble sous leurs pas. Ils avancent tous.
Patrick de Saint-Exupéry, journaliste, grand reporter, écrivain et spécialiste du Rwanda.
Certains, lorsqu'ils vont partir, vont tuer leur famille. Pas parce que le grand-père ne peut pas se déplacer, donc on préfère le tuer. Plutôt qu'il tombe aux mains de ces diables qui s'approchent. C'est complètement dingo, quoi. Dans leur fuite, on va continuer en même temps à éliminer les traîtres, etc. Et Madame Pauline, comme les autorités, vont initier ce mouvement et vont partir vers le Congo, le Zaïre de l'époque, pour organiser la résistance, pour organiser la suite.
Quand le FPR va entrer dans Gisenyi, bien sûr, on ne va pas risquer notre vie, parce que nous savons que nous sommes la proie préférée du FPR. On va s'organiser, on va aller en cachette. Hein. Depuis 1959, ils étaient à l'extérieur. Nous autres, nous allons aussi à l'extérieur, nous nous organiserons. Ce n'est qu'une partie remise, si je peux vous dire.
Du 7 avril au 17 juillet 1994, le Rwanda tombait dans la folie meurtrière des extrémistes Hutus contre les Tutsis. Un véritable génocide. Pauline Nyiramasuhuko, ministre de la Famille et du Progrès des Femmes, en sera l'une des principales chevilles ouvrières avec son fils Shalom et certains autres membres de sa famille proche.
Elle se met dans les hordes de réfugiés, donc elle se camoufle comme réfugiée, mais comme beaucoup d'autres, hein, criminels de guerre rwandais Hutus à l'époque.
Céline Bardet, juriste internationale, fondatrice et directrice de l'ONG We Are Not Weapons of War.
Et elle arrive à ce qu'à l'époque est encore le Zaïre, je crois. Elle arrive là-bas, elle est dans les camps. Donc elle devient réfugiée, en fait. Parce qu'elle a conscience, même si elle s'en défend après, qu'elle va avoir des problèmes de par ce qui s'est passé et ce qu'elle a commis.
Et donc Pauline va se retrouver dans la ville de Bukavu, qui a une espèce de bouillon de culture, qui est une ville où, à l'époque, doit y avoir à peu près 800 000, 1 million de réfugiés dans cette ville. Donc la ville déborde, grouille de gens de tous les côtés. Et Pauline va continuer, quoi, à travailler pour le génocide. On va commencer à réécrire l'histoire, on va commencer... On va toujours continuer la propagande. Et donc, ce qui est formidable, c'est que le passage de la frontière va permettre une bascule totale. Lorsque le gouvernement intérimaire était au Rwanda, mais ils étaient les coupables. C'est eux qui organisaient le génocide. Ils passent de l'autre côté de la frontière, Ils deviennent des réfugiés, donc des victimes. Et donc, ils vont tous commencer à dire « Mais c'est nous les victimes, c'est nous qui souffrons, c'est nous qui avons faim, qui avons soif, c'est de la faute aux autres !» Ils vont justifier indirectement tout ce qu'ils viennent de faire. Et c'est en fait, ce qu'ils viennent de faire va un petit peu passer à la trappe. Parce qu'il y a une masse de 2 millions de personnes, c'est spectaculaire. Il y avait peu de caméras, il y avait peu de presse pendant le génocide. Et brutalement, il va y avoir des dizaines de journalistes, des centaines de journalistes qui vont débarquer. Et dans ces camps de réfugiés, entre guillemets, victimes, on continuait le génocide, on continuait à assassiner les traîtres. Parce qu'il y avait des Tutsis aussi qui avaient été embarqués par le flou. Et on va reconstruire l'outil militaire. On va remobiliser la population, on va dire que c'était un revers, que ça n'était pas une défaite. Et on dit, il faut continuer le travail. Et Madame Pauline participe à tout ça, elle participe à des réunions. Elle est toujours active, elle ne décroche pas.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été interviewée, je crois, par la BBC dans les camps, parce que quand elle arrive dans les camps, où vraiment ils sont dans des situations, cela dit, très difficiles, de réfugiés, elle reprend un peu ses racines, j'allais dire, d'action sociale, et elle est très connue dans le camp parce qu'elle organise la distribution de la nourriture, la distribution des vêtements, donc elle reprend un peu cette panoplie, j'allais dire, d'assistante sociale, d'éducatrice sociale, qui en fait est son ADN au départ, et elle cache pas nécessairement son identité. D'ailleurs, quand elle est interviewée, elle se présente sous son nom, etc., et elle vante comment elle est très impliquée dans le fonctionnement du camp, etc. Donc je pense qu'il y a, au départ, et de toute façon, comme beaucoup d'entre eux, au départ, ils ne sont pas forcément inquiétés, ils ne se posent pas la question nécessairement de savoir s'ils vont être poursuivis ou pas. Et c'est au fur et à mesure que le tribunal pénal international se met en place pour le Rwanda et que les premiers actes d'accusation arrivent, que là, évidemment, il y a un certain nombre de personnes qui commencent à se dire que ça va peut-être tomber sur eux, parce qu'elle, elle part au Kenya, je crois, seulement en 97.
Finalement, Madame Pauline va partir pour le Kenya, se réfugier au Kenya, parce que c'est quand même plus confortable Nairobi que les camps de réfugiés. Et Nairobi va, pendant quelques années, devenir un peu la plateforme de toute la nomenclatura du génocide. Nairobi va être un lieu de regroupement de cette ancienne élite qui a commis le génocide et qui entend le poursuivre jusqu'au bout, parce qu'il n'est pas achevé, parce qu'il y a eu un échec, mais bon, c'est un échec, c'est pas une défaite. On n'a pas été assez bon, donc il faut continuer le travail. Encore aujourd'hui, 30 ans plus tard, il y a toujours des gens qui veulent mener ce projet à son terme.
Je suis allé à Nairobi en décembre 1996. Pauline, je l'ai rencontrée à Nairobi parce que j'habitais dans le voisinage où elle habitait. Et c'est là où je l'ai vue pour la première fois, des visos.
Melchior, journaliste réfugié à Nairobi.
Quand je la voyais, quand je visitais mes amis qui habitaient dans le complexe où elle vivait, je la voyais une femme normale, joviale, qui parlait avec tout le monde, qui était une mère, comme toutes les mères rwandaises, et je ne la voyais rien de différent avec toutes les femmes que je connaissais du monde Rwanda. C'est quand on l'a appréhendée, quand on l'a arrêtée à Nairobi, que je me suis demandé ce qu'elle aurait fait, parce que ça m'a surpris d'apprendre qu'elle vient d'être arrêtée.
Elle est arrêtée par le tribunal pénal international qui frappe à sa porte un matin alors qu'elle est au lit avec son mari. Il la réveille, il la sort de là et elle dit avoir été surprise.
Juliette Bourg, historienne.
Et il s'occupe aussi d'aller chercher son fils. Depuis ce jour, elle n'a plus jamais revu son mari, qui ensuite s'est exilé avec le reste de sa famille en Belgique.
L'arrestation au Kenya de Pauline, elle se place dans un contexte qui est beaucoup plus global. À l'époque, c'est Louise Arbour, qui est procureur du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et qui partage aussi son poste de procureur avec le tribunal pénal international pour le Rwanda. Et elle met en place une opération qu'on appelle Naki. Et il faut savoir que Louise Arbour, elle a toujours mis ça en place, c'est-à-dire qu'elle est très stratégique dans sa manière d'approcher les choses. Et donc, il y a cette opération qui est mise en place en collaboration avec la police kenyane, parce qu'à l'époque, le Kenya collabore avec les autorités du tribunal pénal international. Et donc, il y a 9 personnes qui sont arrêtées. Donc, c'est tout un travail qui dure pendant des mois, parce qu'ils sont repérés, etc. Et l'opération, elle est faite par la police kenyane, parce que, évidemment, le tribunal pénal international pour le Rwanda comme la Cour pénale internationale aujourd'hui, n'a pas de force de police.
Et ces premiers responsables arrêtés vont permettre, en fait, véritablement au tribunal international de démarrer ses travaux. Et entre autres, il va y avoir les aveux du Premier ministre, Jean Kabanda, qui va reconnaître le génocide et qui va mettre en cause directement Pauline, en parlant d'une des ministres les plus actives, les plus volontaires, enfin, ce n'est pas tout à fait les termes qu'il employait, mais on est, c'est ce registre-là qui était extrêmement dynamique. Bon, plus tard, Kabanda va émettre d'autres versions, mais il n'empêche qu'il va faire ces aveux-là qui donneront, 3 ans plus tard, une première image du noyau dur du génocide.
Alors d'abord, ils sont extradés parce que, comme il y a un acte d'accusation du tribunal pénal international pour le Rwanda, ils sont extradés, ils sont envoyés à Arusha. Évidemment, ils sont détenus. Et surtout, ce qui se passe après, c'est la finalisation de l'enquête et la préparation du procès. Donc, tout le temps, elle est en détention préventive, comme tous les autres d'ailleurs, et jusqu'à ce que son procès s'ouvre.
Le viol comme méthode de génocide au Rwanda.
Pauline Nyiramasuku, une criminelle. Aux airs de mer pour
Rwanda, la barbarie au féminin.
Le Monde.
Courrier international.
Une première femme condamnée pour génocide. Le Figaro.
Pauline Nyiramasuku faisait partie des grands concepteurs du génocide. C'est la raison pour laquelle elle a été jugée par le TPIR à Arusha, le tribunal pénal international pour le Rwanda.
Alain Gauthier, traqueur de génocidaires hutus.
Ce tribunal a été créé dès novembre, je crois, 1994, donc dès la fin du génocide, par le Conseil de sécurité. C'est un tribunal qui a jugé, je crois, un peu plus de 90 personnes, qui en a condamné une 63, je crois.
On est quand même 3-4 ans après le génocide, c'est très frais. Les esprits sont pas clairs, l'importance de l'événement n'est pas encore établie, on se rend pas encore compte.
Patrick de Saint-Exupéry, journaliste, grand reporter, écrivain et spécialiste du Rwanda.
Faut pas oublier que la Shoah commence à rentrer dans la conscience de l'Occident qu'avec le procès Eichmann. Entre la Shoah et le procès Eichmann, il y a une espèce de vertige, de blanc, de page qui n'est pas écrite. Là, on est 3-4 ans après, donc c'est encore très frais. Et on commence à entamer l'examen de ce qui vient de se passer. Bien entendu, les accusés vont profiter de tout ça pour vendre un discours qui, d'ailleurs, ce discours négationniste sera largement repris en Occident par un certain nombre de gens qui y auront intérêt. Entre autres, lorsqu'on parle de responsabilité accablante de la France, il est évident que des gens ont voulu nier ces responsabilités accablantes. Donc pour les nier, autant nier ce qui s'est passé. C'est aussi simple que ça. Donc il va y avoir une certaine forme de laisser-aller ou de complicité générale avant de peu à peu parvenir à rentrer dans le champ du débat, à vraiment commencer à se mettre en position de se dire, est-ce qu'une femme comme Pauline peut avoir assisté à des viols commis par son fils? Combien de temps a-t-il fallu au tribunal pour commencer à juste oser formuler cette question?
On a cette Pauline qui approche la soixantaine, qui est un petit peu comme ça, toute timide, qui parle pas beaucoup, qui est là avec son fils.
Céline Bardet, juriste internationale, fondatrice et directrice de l'ONG We're Not Weapons of War.
Et donc on a cette image un peu tranquille, et de l'autre côté, ces témoins qui racontent des choses absolument monstrueuses. Par exemple, les propos qu'elle a tenus aussi, où elle a expressément dit aux milices ou tout qu'il fallait violer et ensuite tuer les femmes. C'est elle qui dit ça. Et on peut encore une fois se demander, en plus, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de se dire on va tuer de toute façon? Non, elle dit il faut les violer et les tuer après. Donc c'est quand même elle qui porte tout ça et qui l'opérationnalise sur le terrain et encourage les milices à le faire. Donc oui, heureusement qu'il y a tous ces témoignages qui sont pour la plupart du temps des témoignages directs.
Les témoignages lors de son procès sont très très durs.
Juliette Bourg, historienne.
Notamment sur ces affaires de violences sexuelles. Les femmes qui ont survécu parce qu'elles ont été violées souvent, puisque elles ont été prises par des miliciens qui ensuite les ont laissées, on pensait qu'elles mourraient de toute façon. Et c'est vraiment des témoignages qui montrent de la cruauté pure. Et c'est pour ça que le tribunal pénal international pour le Rwanda a été la première juridiction à reconnaître le viol comme arme du génocide, et non pas seulement comme crime de guerre. Puisqu'il y avait vraiment une volonté d'exterminer les femmes par le viol, de détruire la filiation, détruire leurs organes génitaux, faire en sorte qu'il n'y ait plus aucun enfant tutsi qui puisse naître. Des femmes de tout âge ont été violées par des hommes que Pauline Nyiramasuku choisissait comme étant considérés comme les handicapés ou surtout malades du sida. puisque c'est aussi pour ça qu'on a considéré le viol comme arme de génocide dans d'autres procès, mais dans celui-ci, parce qu'elle choisissait des hommes porteurs du VIH, qui étaient connus pour cela, pour aller violer les femmes tutsies, pour diffuser la maladie chez ces femmes.
Le procureur est autorisé à ajouter un chef de crime contre l'humanité, extermination. Le procureur est autorisé à ajouter un chef de crime contre l'humanité, viol, conformément à l'article 3G de crime contre l'humanité, persécution, de Pauline, conformément à l'article 3H du statut, d'ajouter un chef de crime contre l'humanité, autres actes inhumains.
À Arusha, vont se retrouver rassemblés au début 10 accusés, puis 20 accusés, puis 30 accusés, qui vont bénéficier de toutes les largesses que doit offrir la justice, c'est-à-dire de l'accès à une bibliothèque, de possibilités de connexion Internet, d'une assistance juridique forte payée par la communauté internationale. Donc tous ces accusés se retrouvent et vont élaborer une doctrine de pur négationnisme. Ils vont se mettre d'accord entre eux. Le temps est très long. Ils n'ont que ça à faire. Et la balance n'est pas forcément égale. À la fois, les accusés sont dans des conditions de confort qui sont normales. Mais sauf que les témoins, eux, ils vivent dans un pays dévasté. Donc, les témoins sont des rescapés. Il faut discuter avec un rescapé pour comprendre. Un rescapé, dans un premier temps, ne peut pas formuler son histoire. Ses propos vont être heurtés, les repères temporels vont être perdus, il va se tromper sur un détail. Et c'est pas parce qu'il mentira, c'est juste parce que le rescapé se sent coupable. Pourquoi moi j'ai survécu alors que tous les miens ont disparu? Et ça mine. Ensuite, il va en permanence revivre le fil de ce qu'il a vécu, comme un ralenti au cinéma qui tournera en boucle. Et il va finir par s'embrouiller un peu, par mélanger. Il va lui falloir des années avant de réapprivoiser son histoire, avant d'être capable de la poser en mots, de la porter en récit, de manière, aux yeux de quelqu'un qui ne connaît pas le monde du génocide, de manière cohérente. Et donc, ces rescapés qui viennent au tribunal sont faibles. Et donc, ce sont eux qui vont porter l'accusation face à des gens qui se retrouvent dans des conditions idéales pour se défendre.
Dans les tribunaux, les avocats de la défense, voilà, ça s'est passé comment, ils cherchent des détails, alors que même en parler, c'est déjà un problème.
Jean-Ouzine Daza, directeur de l'unité de plaidoyer, Commission nationale de lutte contre le génocide.
Et les détails, c'était des détails qui déshumanisaient plus l'individu. Avoir vécu ça et ensuite encore raconter ça, et une personne là devant la cour dans les tribunaux internationaux, elle donne sa version, mais elle est attaquée par la défense, alors que c'est pas le témoin qui est accusé. Mais arrivé là, c'est comme si c'était le témoin qui est accusé. Quand les avocats de la défense t'attaquent pour détruire tes arguments ou ton histoire, pour moi, je trouve que c'est une négation de ce qui s'est passé.
Et dans le procès de Mme Pauline, ça va être assez stupéfiant. Les avocats vont prendre comme enquêteurs pour le dossier de Mme Pauline des membres de sa famille. Vont être payés des membres de sa famille, ceux-là même qui nient le génocide et qui nient absolument tout. Je veux dire, il ne s'est rien passé, c'est ce que dit Shalom. Je me promenais, je n'ai pas vu de mort. D'où ces 10 ans de procédure. Et puis en plus, les procès ont été joints. Donc c'est très compliqué quand vous avez un procès joint, parce que vous avez la mère, le fils, la belle-fille. Il y a aussi, je crois, deux autres filles qui étaient poursuivies.
C'est un procès qui s'est vraiment joué en famille, puisque dans la défense de Nirama Suko et de son fils, on a dans l'équipe de défense son beau-fils, ses filles qui témoignent à des charges, son mari qui témoigne à des charges, des photos de famille qui sont mises comme pièces à conviction pour montrer à quel point le fils n'a pas pu violer parce qu'il était bon père de famille. Elle aussi, des témoignages à connotation morale, c'était une bonne grand-mère, une bonne mère. Elle aurait jamais pu faire ce dont elle a été accusée. Et elle-même joue beaucoup sur cette image de protectrice de sa famille pour justifier qu'elle n'ait pas pu participer au massacre, par exemple en disant comment elle a tout fait pour les protéger pendant le génocide en étant à la maison, en ramenant de la nourriture, etc.
La ligne de défense qu'elle épouse, c'est assez intéressant parce que, évidemment, il y a celle de ses avocats. qui est la ligne de défense, j'allais dire, commune à énormément de criminels de guerre qui nient les faits. Donc déjà, elle plaide non coupable. Et au-delà de la stratégie de défense qui est prise par ses avocats, elle-même, elle continue à dire, et elle l'a dit auparavant, qu'elle se pose en fait en tant que mère de famille et femme, et elle dit à plusieurs reprises comment vous pouvez imaginer qu'une femme, mère, puisse commettre ce type d'acte. Donc elle, elle est dans un déni total de ce qu'elle a commis, et il faut savoir qu'au procès, elle est, les médias ont beaucoup commenté ça, elle est habillée très strictement, avec une jupe, elle a un petit chignon, elle a ses lunettes. Je crois qu'elle a 59 ans quand son procès commence. Donc, elle a cette image un peu de votre vieille tante que vous auriez à votre dîner de Noël. Donc, elle fait vraiment très sobre et peut-être elle a ce look un peu de l'assistante sociale que vous voyez derrière un bureau et qu'effectivement, vous ne pourriez pas penser un quart de seconde qu'elle a ordonné des viols et qu'elle a demandé à massacrer des gens plus rapidement, etc. C'est pas du tout imaginable. Donc, heureusement, qui a les témoignages, parce que il y a quand même une ambiance au départ du procès de questionnement, de se dire on la voit et on se dit mais oui en fait comment c'est possible qu'une femme comme ça avec son petit chignon et ses lunettes avec son fils là, et on ressent aussi l'amour qu'elle a pour son fils et ça se ressent aussi beaucoup au procès, donc on a du mal à imaginer au premier abord qu'elle ait pu commettre quoi que ce soit. C'est un des seuls procès à ma connaissance où on a une mère et son fils l'un à côté de l'autre jugés pour les mêmes faits et en même temps quoi.
Ce que Pauline Lamassoucault laisse comme spécificité, c'est la reconnaissance qu'une femme puisse participer à des actes de violence sexuelle génocidaire, puisque malgré les recherches qui avancent, l'accès aux informations qu'on peut avoir, c'est encore quelque chose qu'on a du mal à concevoir, qu'une femme participe à des violences génocidaires, exterminatrices à ce niveau-là. Mais encore plus, il y a un tabou autour de la participation des femmes aux violences sexuelles. Et son cas permet de réaliser que c'est possible. C'est des personnalités qu'on a tendance à exceptionnaliser, à définir comme des monstres, parce que ce sont des femmes qui se sont pas comportées comme des femmes, qu'elles ont pu faire ça. Alors que pour le cas de Nella Massoucault, c'est une femme qu'il faut rattacher à son contexte, puisque de nombreuses femmes ont participé au génocide au Rwanda. Il faut dépasser cette stupeur, le fait de les penser comme extraordinaires, exceptionnelles, des déviantes, alors qu'elles sont aussi le fruit d'un contexte spécifique de mobilisation des femmes à la violence. Les femmes ne sont pas moins violentes que les hommes, sont sociabilisées évidemment à être moins violentes, mais comme ça a été le cas dans l'Allemagne nazie, même au Cambodge, en Yougoslavie, il y a eu une participation des femmes au génocide. Pour le cas d'Allemagne nazie, c'était quand même une minorité de femmes. Là, la différence avec le Rwanda, c'est que c'est un génocide qu'on a appelé génocide de proximité, où la population civile a participé à l'extermination de ses voisins Tutsis. Et donc la possibilité pour les femmes de participer facilement sans avoir à avoir une carrière militaire ou à devenir gardienne de camp, par exemple, avec des formes de participation qui par contre sont spécifiquement féminines, par exemple pas forcément en prenant les armes pour tuer, mais en dénonçant, en encourageant les tueurs, en pillant les cadavres, en acclamant les viols, en dénudant les cadavres de femmes. Donc des participations différentes, mais essentielles à l'efficacité du génocide au Rwanda. Les témoins, encore aujourd'hui, 28 ans après, quand on leur pose des questions sur ces femmes, restent très déçus qu'en fait une femme ait fait ça, leur ait fait ça, plus qu'un homme. Parce que y a quelque chose de l'ordre social vraiment qui s'est retourné à ce moment-là.
Elle est la première femme reconnue coupable de génocide par une institution internationale. À Arusha, en Tanzanie, le tribunal pénal pour le Rwanda a condamné aujourd'hui à la prison à vie l'ex-ministre rwandaise de la famille, accusée de crimes de génocide et crimes contre l'humanité lors du massacre des Tutsis à Butare, dans le sud du pays.
Il y a deux verdicts, puisque d'abord elle a été condamnée à perpétuité avant de faire appel, et d'être condamnée à 48 ans de prison. Donc elle a fait appel sur des vices de procédure, mais en fait c'est une peine qui n'est pas plus clémente, puisque vu son âge, en la condamnant à 48 ans de prison, l'idée c'est qu'elle meure en prison et qu'elle ne sortira jamais. Donc.
Le dossier Nyara Masuhuko n'est toujours pas clos. Sa belle-fille est entre les mains de la justice rwandaise, où elle va être jugée pour crime de guerre et crime contre l'humanité. Près de 30 ans après, ça a du sens.
Oui, ça a du sens. Ça a du sens pour les victimes, puisque c'est très difficile de savoir que des personnes qui ont participé à l'extermination des vôtres ou à vos propres blessures soient à l'étranger, non jugées. Et surtout, il y a encore beaucoup de choses que les rescapés ne savent pas sur la façon dont sont morts les leurs. Donc c'est encore très important pour les victimes que ces personnes soient jugées pour des questions d'impunité, mais aussi d'informations très pragmatiques sur la façon dont sont morts les membres de leur famille, leurs amis, etc.
C'était Pauline Nyara Masuhuko, Génocide rwandais au féminin, épisode 2, Le viol, une arme de destruction massive. Avec Patrick de Saint-Exupéry, Juliette Bourg, Céline Bardet, Alain Gauthier, Jean-Rousine Daza et Melchior. Avec les voix de Sabine Pacora, Violette Fossat. Merci à celle qui m'a inspiré cette série, Mary Mausen Bazic, rescapée de la guerre en Bosnie, spécialiste des crises et des conflits à Sciences Po et ancienne UTPY pour ses traductions, ses recherches et ses contacts. Merci également Indiana Burkel pour son aide précieuse dans la fabrication de ce documentaire.
Mon nom est Sirin Kézamiti.
Des fois, par hasard, on trouve des fosses communes dans notre région. Comment se fait-il que personne n'a parlé de cette fosse? Voilà. Alors là, tu remets en question l'aspect vérité sur ce qui s'est passé. Comment se fait-il que sur 30 prisonniers qui ont été inculpés, comment se fait-il que personne n'ait parlé de cette fosse? Donc tout n'a pas trouvé réponse. On n'est jamais satisfait avec la justice quand il s'agit du génocide. Et aussi, on ne pourra jamais tout comprendre du génocide. On va vivre avec ça. Après un certain temps, tu prends une décision. Tu dis, je respire, j'ai faim, des fois je tombe malade, des fois je ne veux pas mourir. Tu commences et tu luttes pour la vie. Tant qu'on respire, on cherche à vivre.
Archivina Delphine André, prise de son Anthony Thomasson et Nadège Antonini, réalisation Marie-Laure Ciboulet, mixage Nadège Antonini, coordination Christine Bernard, attachée de production Sylvia Favre, une histoire particulière d'Alain Lefkovitch.
Ces minutes les plus horribles de ma vie. Le quatrième bourreau m'a maintenu plaqué contre la porte ouverte.
Il m'a ordonné de l'enterrer. J'ai refusé.